Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
D'un mélange d'eau et de farine, qui sait, peut surgir de la poésie macaronique. Mais tel n'est pas le but premier de cet assemblage fort simple. Et puis, quelle farine, quelle eau, et quelle forme, quel format, quelle couleur, quel accompagnement, quel assaisonnement, quelle durée de cuisson? Les pâtes alimentaires, oui, fraîches ou sèches, artisanales ou industrielles. Les pâtes, à la fin des années 80, lors de la première diffusion de La matinée des autres qui vient, la productrice affirmait que notre pays, la France, tenait cet aliment pour quantité négligeable. Les habitudes alimentaires ont dû bien changer en quelques décennies. Tout le monde a son idée sur les pâtes, à table ou avant de passer à table, ce qui est encore plus appétissant. L'histoire des pâtes, en Chine, en Italie, la corporation des fabricants de pâtes, le séchage, les conditions climatiques, etc., etc. Le 24 mai 1988, sur France Culture, on signalait 730 types de pâtes.
La seule chose qui me déplaît, c'est que quand on traduit la pâte, on dit les pâtes. Ça me déplaît énormément.
Mais oui, parce que
le pluriel et le singulier, ça change tout.
C'est comme l'eau.
Eh oui,
on dit pas les eaux.
On dit pas les eaux.
Ça fait partie des choses indispensables. Donc l'eau, la pâte.
La civilisation des pâtes ou la force du gluten, par Pascal Lismonde.
Il y a une vision un peu comme un peu d'alchimie. Hein. Pour elle, disait que pour faire des bonnes pâtes, il faut de l'air, du feu et de l'eau. Et de l'air, justement, pour ne pas couvrir la marmite avec le couvercle. Que justement que si les femmes se permettent de poser par inadvertance le couvercle sous la marmite, c'est un motif de divorce, parce que ça provoque certainement des scènes et des ménages. Souvent on voit des assiettes volées comme ça dans les rues, hein. Ça c'est connu, que les Napolitains ont l'habitude de tout jeter par la fenêtre. Mais les scènes, non mais c'est vrai, j'ai assisté à des scènes où il y avait des assiettes qui sont volées par la fenêtre pleines.
Donc les trois éléments.
Les trois éléments, l'air, parce qu'il faut que ce soit la marmite soit ouverte, le feu soit très fort, le feu au maximum, et puis l'eau, beaucoup d'eau, ça doit bouillir.
Et on a les pieds sur terre.
Et puis l'intelligence, justement, comme on disait tout à l'heure.
On a les pieds sur terre avec l'intelligence, on a les pieds sur terre. On a fait la quadrature del giro. On a réussi enfin la quadrature del giro. Voilà.
Si les Français n'ont guère de considération pour les pâtes alimentaires, dans d'autres pays, il s'agit d'un véritable phénomène de civilisation. En particulier, la Chine, et surtout l'Italie, pays que nous évoquerons tous deux dans cette émission. Avec plus de 700 recettes pour accommoder les pâtes, l'Italie jouit dans ce domaine d'une suprématie incontestée. Au point qu'un musée sur l'histoire des pâtes a été ouvert par la famille Agnesi à Ponte d'Accio, en Ligurie, à côté de ses premiers moulins. L'histoire est riche et édifiante, mais il faut déjà en rechercher les origines. Et tout d'abord, ce que l'on désigne exactement par le terme de pâte. Françoise Saban.
Alors oui, effectivement, il faut s'entendre sur les termes, parce que finalement, qu'est-ce qu'une pâte ? Une pâte, c'est un mélange de farine et d'eau. Alors, avec un mélange de farine et d'eau, on peut faire plusieurs choses. On peut faire soit du pain, soit ce que nous appelons des pâtes alimentaires. Alors, quelle est la différence ? Ce que nous appelons du pain, bon, c'est une pâte fermentée, mais finalement qui peut être aussi non fermenté. Hein. Si on pense au pain azim, c'est un pain non levé, mais qui, comme le pain fermenté, va être cuit au four. Alors, quelle différence avec ce que nous appelons les pâtes alimentaires ? Alors, à mon avis, là, il faut faire intervenir deux facteurs. D'une part, la cuisson, c'est-à-dire le mode de cuisson qu'on va utiliser, et d'autre part, l'utilisation qu'on va en faire. C'est-à-dire que les pâtes alimentaires sont constituées d'un mélange de farine qui est intimement travaillé jusqu'à obtenir une pâte très compacte et une pâte très dure, façonnée en formes diverses, On peut utiliser plusieurs types d'appareils, hein, du rouleau à pâtisserie à la presse qui va nous donner les spaghettis. Et alors, le deuxième facteur, c'est et la cuisson et l'utilisation. Alors, les pâtes alimentaires doivent être obligatoirement cuites en milieu humide. Ce que j'appelle milieu humide, c'est en eau bouillante ou bien, par exemple, si on prend l'exemple de la Chine, à la vapeur. Bon. Et là, on voit bien la différence avec la pâte à pain. Le pain est toujours cuit au four. Et qu'est-ce qu'on va chercher à obtenir ? C'est une croûte dorée. Et même si on parle du pain azyme, par exemple, ou des galettes plates, mais fermentées, que l'on fabrique dans les pays méditerranéens, tous ces produits sont cuits, sinon au four, du moins sur des plaques chaudes. Alors, dernier aspect, l'utilisation qu'on va en faire. La spécificité des pâtes alimentaires, à mon avis, est ce qui a fait qu'elles ont pu avoir un intérêt particulier dans l'alimentation humaine, c'est qu'elles peuvent se conserver par dessiccation. C'est-à-dire que vous faites votre pâte, vous l'étendez, vous la découpez en petites formes et vous le faites sécher et vous pouvez conserver. Voilà, ça c'est ce que j'appelle des pâtes alimentaires, mélange de farine dure, donc qui est travaillée fermement. Hein. On sait qu'on utilisait même des espèces de barres pour les travailler, pour mieux mélanger cette pâte, façonnée en forme et cuite en milieu humide.
Rodolfo Gabellieri.
On disait qu'il fallait trois choses pour faire des pâtes. Il fallait du blé dur. Il faut de l'eau un peu particulière. Elle ne doit pas être de l'eau de pluie ou de l'eau absolument dépourvue de sel. C'est préférable, d'après ce qu'on dit dans les habitudes, d'avoir de l'eau légèrement salée. Et puis, naturellement, il faut du soleil. Le soleil pour sécher les pâtes. Pourquoi ? Parce que pendant le séchage, il y a une fermentation qui se fait. Tellement que même à Naples, aujourd'hui, on fait des pâtes artisanales qui sont séchées dans des séchoirs, disons, à l'air naturel. Et, ben, l'effet est que le séchage, alors, prend beaucoup plus de temps à la place des quelques heures qui sont suffisantes dans un procédé industriel. Dans un procédé artisanal, il faut 3-4 jours. Et pendant ce temps-là, il y a plusieurs processus de fermentation qui prennent lieu et qui donnent un goût particulier à la pâte artisanale. C'est comme ça que d'ailleurs on revient un peu à cette technique artisanale parce qu'il y a des connaisseurs qui semblent apprécier justement ce goût particulier. D'ailleurs, je vous signale, dans la ville de Naples, c'était l'habitude jusqu'à il y a quelques ans de vendre des pâtes toutes cuites dans la rue. Toutes cuites, qu'on vendait et qu'on mangeait sans aucun assaisonnement. Parce qu'une pâte séchée artisanalement a suffisamment de goût, sans besoin d'aucune sauce ou d'aucun assaisonnement complémentaire.
In mancilla, caloro un muro, parienti amici a scettere fuori, chi con mazzo, cortiello e cortella, chi con spada, spatuna e spatella, chi sto con barre, chi lo con spite, chi con ammenele, chi con andrite, chi con tanaglia, chi con martiella, chi con torrune, susa miella.
En ce qui concerne les plats faits avec de la farine ou du lait, à Naples, où l'on prise avant tout la rapidité, on peut acheter partout et pour trois fois rien toutes sortes de maccheroni. Ce sont des pâtes délicates, à base de farine très fine, très travaillée, découpées d'une manière très spécifique et bouillies le plus souvent à l'eau. Pour en relever le goût, on y ajoute généralement du fromage râpé. Dans toutes les grandes rues de Naples, les maccheronari, marchands de maccheroni, se tiennent à l'angle avec leurs casseroles pleines d'eau bouillante. Et en particulier les jours où l'on fait maigre, ils sont très occupés à préparer à chacun un plat de pâtes et de poissons. Et l'on voit des milliers de passants repartir avec leur repas dans un morceau de papier. Goethe voyage en Italie 29 mai 1787.
Narone sbacantanna solo per mona. Il y a des régions qui sont plus propices à la culture du blé dur par rapport au blé tendre ou bien c'est indifférent, on peut les cultiver partout. Mais
disons que les blés tendres ou durs peuvent pousser pratiquement dans les mêmes régions. Aujourd'hui dans le monde entier, on distingue trois grandes classe des blés durs. C'est les blés, disons, de la Méditerranée, les blés canadiens, qui vient du Saskatchewan essentiellement, et les blés d'Amérique du Sud. Les variétés d'Argentine sont en particulier très riches en gluten. Mais à part certaines spécialisations qu'il serait difficile de voir comment elles se sont formées à travers les siècles, disons que pratiquement on peut faire du blé dur ou du blé tendre au même endroit. Là où les blés poussent bien, c'est facile d'en faire. Vous savez qu'il est facile de faire la cultivation des céréales dans les climats froids. Donc, alors, par contre, les céréales, typiquement, souffrent beaucoup de tout ce qui est les couples chaleur-humidité. Donc, les climats tropicaux ou subtropicaux ne conviennent pas pour la culture du blé. Et là-bas, on ne trouve jamais du blé, on trouve du riz. Ce qui change tout l'aspect de la gastronomie des pays asiatiques.
En Méditerranée, la notion même de pâte apparaît dès l'Antiquité. En effet, les fresques des tombeaux étrusques montrent déjà les instruments qui servent à la fabriquer. Et les Romains en font largement usage. Il suffit d'évoquer Apicius, par exemple, au temps de Tibère, personnage célèbre pour le faste de sa table et pour son traité De re coquinaria. Dans cet art culinaire, il donne d'étonnantes recettes, de l'agane, autrement dit, de feuilles de pâte farcies à la viande ou au poisson. Nous sommes au 1er siècle de notre ère. De l'agana à lasagne, la relation est claire. Mais le moment précis de l'apparition des pâtes, sur un mode plus général, suscite encore bien des débats. Françoise Saban.
On a soit des données archéologiques, soit des sources écrites. Alors, pour ce qui est de l'archéologie, que je sache... Apparemment, on n'a pas de reste archéologique européen qui nous prouverait que les pâtes ont été consommées, par exemple, dans l'Antiquité romaine ou grecque.
Pourtant, on cite souvent l'exemple des Étrusques, enfin de certaines tombes dont les bas-reliefs montrent certains instruments qui pourraient convenir à la fabrication des pâtes.
Ah bah, effectivement, si vous avez des représentations de rouleaux à pâtisserie... Ils ont pu servir à confectionner des pâtes. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il faudrait savoir si ces pâtes ont été, comment elles ont été cuites. Il ne suffit pas de faire finalement une pâte très très fine. Il faut savoir à quoi elle est destinée. Si elle va être cuite à l'eau et ensuite assaisonnée, soit cuite dans un bouillon et consommée avec le bouillon, soit égouttée et consommée avec d'autres ingrédients, d'autres assaisonnements. Ou bien alors, si elle est cuite sur une plaque chaude ou dans un four, ce que moi j'appelle à ce moment-là un pain. Finalement... Bon, c'est très bien, il y a toute la légende autour de Marco Polo qui aurait soi-disant rapporté les pâtes de Chine en Italie. Bon, là, il n'y a absolument rien de probant. Il n'y a que les derniers, le manuscrit de Ramuccio qui date du XVIe siècle, qui nous parle de pâtes sous des noms qu'on connaît bien, hein, genre, si je me souviens bien, macaroni ou lasagne. Mais enfin, au XVIe siècle, en Italie, les pâtes étaient déjà très courantes. Donc, ça ne nous prouve absolument rien quant à l'intervention de Marco Polo dans ce domaine. À mon avis, pour l'instant, il mieux vaut ne pas en parler. Alors, en revanche, pour la Chine, alors là, on a des données archéologiques, mais qui sont quand même finalement pas très anciennes, qui datent de la dynastie des Tang, c'est-à-dire 7e, 10e siècle environ. On a retrouvé effectivement des petits raviolis tout à fait similaires à ce qu'on peut manger à l'heure actuelle en Chine. On a donc des petits fossiles de raviolis qui datent d'il y a environ 12 siècles, oui, à peu près. Bon. Donc, apparemment, la Chine semble avoir des données antérieures, en tout cas en ce qui concerne l'archéologie. Alors, pour ce qui est de la Chine, les premières recettes culinaires dont on dispose se trouvent dans un traité d'agriculture qui date du VIe siècle de notre ère. Là, on a 13 recettes qui sont classées sous un mot qui désigne toutes les préparations à base de farine et d'eau, de farine de blé essentiellement, et préparée sous diverses formes. Et là, on a réellement des recettes de pâtes. Ceci dit, apparemment le mot qui désigne ces pâtes apparaît en Chine bien avant le 6e siècle. D'après la petite enquête que j'ai faite, le mot apparaît au moins au 2e siècle avant notre ère. Et les Chinois d'ailleurs avaient conscience que les pâtes, enfin ce qu'on peut appeler les pâtes alimentaires, n'avaient pas une grande antiquité en Chine. Et les lettrés qui se sont intéressés à la question pensaient que les pâtes étaient apparues à peu près entre le 2e siècle avant notre ère et le 6e siècle après notre ère. On a d'ailleurs un poème très très joli sur la fabrication de raviolis qui date du 3e siècle de notre ère, qui est une espèce d'ode aux pâtes.
Quand en plein cœur de l'hiver, le froid terrible du petit matin fait geler l'intérieur du nez, que le souffle givre à l'extérieur de la bouche pour vous combler et calmer vos frissons, rien ne vaut un bol de nouilles en soupe. Mais de toutes les pâtes, seules les laowan peuvent être mangées en toute saison. Farine deux fois tamisée, comme une poussière de neige qui s'envole, avec du bouillon ou de l'eau, on la pétrit en une pâte collante et élastique jusqu'à ce qu'elle brille. Pour la farce, épaule de mouton ou côte de porc, autant de chair que de graisse, le tout coupé en petits morceaux gros comme la section d'une cordelette. Perles qu'on enfile ou cailloux que l'on sème sont gingembre et ciboule finement hachés, intimement mélangés avec sel et condiments. Sur le feu, on fait bouillir l'eau. Et, en attendant que la vapeur s'élève, on retrousse son habit, on relève ses manches, et l'on pétrit, et l'on façonne. La pâte quitte la paume des mains, on la roule dans tous les sens. Divisée en étoiles, chacune reçoit un grêlon. Dans le panier à vapeur, pas de farce qui déborde. Sur les raviolis, pas de farine en trop. Ils sont beaux, ils ont la bouche ouverte. Leur enveloppe fine ne se fendille pas et laisse deviner la farce dans sa transparence. Elle est tendre comme de la soie de printemps, blanche comme de la soie d'automne. La vapeur en un nuage s'accumule et leur parfum embaume au loin.
Donc on voit que là, il y avait un goût en tout cas pour ce type de nourriture qui était ressenti comme nouvelle. Et ceci d'ailleurs est lié quand même, là il faut le dire, à l'introduction du blé en Chine. Enfin, là aussi il y a un débat sur la date de l'introduction du blé en Chine, mais apparemment on se rend compte que l'apparition, l'avènement de ce nouveau type de préparation céréalière est lié à une nouvelle céréale ou à une céréale qui trouve là un nouvel emploi. Puisque le mot qui désigne farine, la farine de blé, ne peut désigner que la farine de blé. Le mot qui sera utilisé pour les autres farines, fécule, amidon, de riz ou de millet ou même de légumineuses, sera un autre mot, c'est le mot fun. D'ailleurs, aujourd'hui, le mot mien fun, donc le composé des deux, signifie farine.
Du côté de la Méditerranée, en Sicile très exactement, le géographe arabe Al-Idrissi fait mention à Trabia, à côté de Palerme, d'un aliment à base de farine en forme de fil, les premiers vermicelles. Nous sommes au XIIe siècle. À partir de là, l'histoire des pâtes en Italie est fertile en découvertes. Stefano Cucuini.
On a retrouvé un manuscrit dans la bibliothèque laurentienne de Florence qui était donc écrit par Laurenziano Gaddiano. Donc là, on se situe vers 1338 à peu près, où dans ces petits ouvrages, il y a déjà une association très particulière du type de la pâte avec l'endroit d'où elle provient, voire donc les villes, voire les régions d'Italie. Tout ça est en latin, lesquels dicit Aquibusdam vermicelli ut tuscis, aquibusdam orati ut bononiensibus, aquibusdam minutelli ut venetis. Aquibusdam fermentini ut regensibus, aquibusdam pancardelle ut amantuanis. Et c'est assez amusant de voir qu'il fait donc venir les vermicelli, une origine, vermicelli, les petites pâtes, donc une origine toscane. On a gli orati, un autre type de pâte originaire de Bologne,
Qui serait quoi alors?
Gli orati, c'est encore des petites pâtes. Donc on a trouvé pas trace effective, mais on imagine que c'est un segment de petites pâtes très courtes, donc originaire de Bologne. On a i minutelli, comme le nom indique, très menu. C'est un type de pâte, donc très fine, plus fine, des vermicelli, donc originaire de Venise. On a i fermentini, auxquels il donne un'origine di Reggio Emilia attuale, au centre de la plaine padana. Et on a également les pancardelle, peut-être ça un type de pâte plus large, similaire aux pappardelle toscanes d'aujourd'hui, qui était donc originaire de Mantoue. Je m'amuserai peut-être à citer un des plus anciens écrits faits par Boccaccio, du reste en 1348, qui relate donc dans une nouvelle du Décameron, des Calandrines, une histoire sympathique, et on montre que là aussi, en Toscane, i ravioli et i maccheroni sont déjà des mets d'époque. In una contrada chiamata Bengodi eravi una montagna tutta di formaggio e parmigiano grattugiato, sopra la quale stavan genti che nient'altra cosa facean che far maccheroni e ravioli e cuocerli in brodo di cappone e poi gettavan quindi giù e chi più ne piglia più ne aveva. Cette nouvelle relate tout à fait l'abondance de cette époque pré-rinascimentale où on traite de cette pièce où il y a cette énorme montagne de parmesan sur laquelle sont assis des gens qui fabriquent sur pièce les macarons et les ravioli qui sont jetés dans un bouillon de chapon et ensuite ils sont roulés sur cette montagne et une fois qu'ils sont tombés au pied de la montagne, c'est lui qui peut plus en prendre, plus en mangera. Donc c'est assez typé à au raviolo et au maccherone de l'époque qui est encore valable aujourd'hui.
L'ermite Guglielmo Caffitella, qui vécut en Sicile au XIVe siècle, fut béatifié par le pape Paul III et l'on raconte quelques-uns des épisodes de sa vie dans les Actes des Saints. Ainsi, ce miracle. Alors qu'on est au début du carême, il est invité un jour par un bourgeois à dîner. Sa femme ne voit guère d'un bon œil l'arrivée de l'ermite comme convive. Aussi, ce dernier décide-t-il de refuser l'invitation et trouve un prétexte pour ne pas venir. En signe d'amitié, le bourgeois lui fait alors envoyer par un domestique un beau plat de lasagne fumante. Sa femme est obligée de s'exécuter, mais perfide, elle demande au domestique de cacher les lasagnes dans l'armoire de l'ermite. Bien entendu, celui-ci ne les voit pas. Le carême passe et le bourgeois est quelque peu surpris de ne pas avoir de remerciements de la part de l'ermite. Il renvoie le domestique qui ouvre l'armoire. À sa grande surprise, les lasagnes sont là, toujours fumantes. L'ermite comprend et dit au domestique « Tu te rappelles, tu viens tout juste de me les apporter ?»
Pour ce qui est des textes, pour l'Occident, apparemment, les premières mentions de noms de pâtes que l'on connaisse, comme par exemple macaroni, ravioli ou lasagne, se trouvent dans certains traités culinaires italiens du XIVe siècle. Vous savez que pour le Moyen-Âge, les premiers traités culinaires européens apparaissent à la fin du Moyen-Âge, donc fin XIIIe, début XIVe. Donc dans certains traités culinaires italiens, il y a des mentions de noms de pâtes que l'on connaît à l'heure actuelle. Bon, ceci ne signifie pas qu'il n'y avait pas de pâtes avant, ça je n'en sais strictement rien. Alors il y a tout un débat justement autour de la terminologie parce que, par exemple, dans le dialecte actuel napolitain ou de la côte amalfitaine, pour le mot lasagne, on emploie le mot lagane, qui se trouve dans les textes romains. Mais si on regarde les recettes romaines concernant les laganes, justement, à mon avis, il ne s'agit pas de pâtes, car là, on n'a pas une cuisson en milieu humide. Il semble bien que lagane, effectivement, désigne la pâte qui a été étendue à l'aide d'un rouleau. D'ailleurs, à l'heure actuelle, dans le dialecte napolitain, laganatura signifie le rouleau pour étendre les lasagnes. Donc, apparemment... Bon, je veux dire, tout le monde peut se tromper et puis il faut encore faire des recherches dans le domaine. Apparemment, les pâtes alimentaires telles que je les ai définies apparaissent en Italie vers la fin du Moyen-Âge.
également un cuisinier très important à l'époque qui est il Platina Cremonesi, lequel, inspiré d'un Mastro Martino de Como, écrit un merveilleux ouvrage, l'un des premiers ouvrages en latin qui est De Honesta Voluptate Velleitudine, qui donc servira également dans une édition française de Lyon, je crois. C'est vraiment la partie de l'exportation de cette cuisine vers la France, dont le précurseur principal sera Catherine de Medici, aux alentours de 1500, laquelle amènera non simplement les ouvrages, mais les cuisiniers et les bonnes manières de la Renaissance. À partir de cette époque-là, donc, on a toute une lignée de cuisiniers qui se rattachent aux cours italiennes, qui voyagent dans toute Europe. On arrive donc également en 1570 avec Bartolomeo Scappi, un autre cuisinier, qui est très intéressant parce que son ouvrage, c'est il cuoco segreto, le cuisinier secret pour un pape Pie V. C'est très important de voir où, dans cette magnificence de la Renaissance, la cuisine toujours des papes reste toujours secrète quelque part parce qu'évidemment, il ne fallait pas faire voir que les papes mangeaient mieux. Donc, on commence à partir du XVIe siècle vraiment à s'organiser sur une idée très, très typée de celle qui est la pâte. Et ils naissent d'ailleurs à cette époque-là, sous le patronage de Santo Stefano, les corporations différentes, dont on a la première trace avec la création de l'arte maestri pastillatori e fidelari, qui est fait à Gênes donc pour la première fois en 1574. Suivent après, dans les mêmes années, en 1977, i Maestri Fidelari di Savona. On trouve l'art des vermicelliers à Naples en 1979. À Palerme, on a la Maestranza des Vermicellari en 1605, pour arriver dans celle qui est la Rome, qui a toujours survolé les choses de manière assez exubérante. Et elle a créé la véritable Università dei Vermicellari, et c'est là en 1646.
L'Université
des Vermicelliers. Donc, à partir de 1705, la pâte est fabriquée et ensuite elle va à la recherche des saveurs. On sait très bien qu'à la découverte des Amériques, il y a tout un tas de produits qui arrive donc sur l'Europe, donc quoi de plus magnifique que d'imaginer des recettes, voire des pâtes, avec les nouveaux produits.
Notamment la tomate.
Absolument, chose qui est encore valable aujourd'hui. Et donc la tomate, du reste, donc, est arrivée au XVIe siècle et est restée méconnue totalement en toute Europe. D'ailleurs, c'était les géraniums de l'époque, plein d'ornements aux villas et aux jardins de l'époque. Et finalement, on arrive, et là, ce n'est pas de ma faute, c'est toujours en Toscan, qui en 1705, c'est Gaudenzio, Francesco Gaudenzio, cuisinier au Sacre-Cœur de Rome, qui écrit un petit ouvrage en honneur d'un cuisinier de Caterina de Medici, qui était Domenico Romoli, dit le pain unto, le pain oin, de cette idée du pain donc, qui est imbibé d'huile, tout simplement. Et on trouve donc la première trace de la cuisson de la tomate, qui était donc il pomidoro.
Je viens de parler de macaroni. Tout le monde ne sait pas ce que c'est, il faut le dire, afin qu'on n'aille pas les prendre pour la pâtisserie que l'on connaît en France sous le nom de macarons. Les macaronis, vermicelli, andarini, taglioni, festacci, millefanti et autres, passent sous le nom générique de pâtes. La consommation qui se fait de ces pâtes est surprenante. Ceux qui n'ont pas encore quitté l'ancienne manière de vivre se passeraient plutôt de pain que de macaroni ou autres pâtes de ce genre. C'est le potage ordinaire. Les Génois et les Napolitains ont fait un festin royal quand ils ont mangé un quart de boisseau de ce plat. Mais il faut être accoutumé pour le trouver bon. Cette pâte est très nourrissante et on dit malgré cela qu'elle est facile de digestion. Nous vîmes à San Remo plusieurs manufactures de macaroni et de vermicelli. On en use aussi considérablement en Provence et l'usage commence à s'introduire à Paris. Extrait du carnet de voyage du père Labat en Espagne et en Italie entre 1706 et 1716.
Jean-Louis Flandrin.
Alors, j'ai là un livre de la fin du XVIIIe siècle et qui s'appelle « La vie privée des Français » de Le Grand Dossy, où il nous dit qu'à son époque, c'est-à-dire juste avant la Révolution, dans les années 1780, les pâtes sont arrivées depuis peu de temps et elles ne sont encore mangées que par les élites sociales de Paris. D'après lui, elles seraient à peu près inconnues dans les provinces et par les autres classes de la société. D'autre part, il nous dit que les femmes à son époque ne les supportent pas parce qu'elles n'aiment pas le fromage dedans. Elles n'aiment pas le fromage. Les femmes bien élevées ne mangent pas de fromage. Et si on mange les pâtes sans fromage, elles sont indigestes. Et si on les mange avec fromage, elles sont mauvaises. Donc, les macaronis sont arrivés à cette époque-là plutôt comme entremets sucrés. Et d'autres pâtes, comme les lasagnes, sont... ou d'autres encore sont acceptés en potage, ou les spaghettis et les vermicelles sont acceptés en potage, mais on ne peut pas dire qu'ils aient vraiment triomphé, et c'est dans le courant du 19e siècle que les pâtes vont vraiment s'installer, et à mon avis, c'est plutôt vers le 20e siècle qu'elles vont se répandre dans les différentes couches de la population française. Alors, bon, on est installé là au 18e siècle. Depuis quand est-ce que les Français les connaissent? Là, j'ai un autre texte qui nous donne à penser que si les Français de Paris et du nord de la France ne les connaissent pas, elles sont depuis longtemps connues en Provence. En effet, on a un texte qui s'appelle « Le trésor de santé » qui a été publié en 1607, mais qui a été sûrement écrit une vingtaine d'années auparavant, on ne sait pas par qui, et qui nous parle de plusieurs pâtes faites en Provence, qui sont séchées sur des draps blancs, etc., et qui se gardent jusqu'à 2 ans. Et puis, quelque temps après, au début du XVIIe siècle, vers 1730, si je me souviens bien, un voyageur qui va de Paris à Rome passe par la Provence et nous dit qu'en Provence, comme en Italie, on mange beaucoup de pâtes. À cette occasion, il nous dit d'ailleurs qu'il a mangé une sorte de pâte assez bizarre qu'on appelait couroucoussou et qui viendrait du Levant. Alors, le couroucoussou qui vient du Levant, je suppose que c'est le couscous qui vient plutôt d'Afrique du Nord, mais bon, chacun peut en discuter. Alors, pour ces pâtes provençales qu'on nous décrit au début du XVIIe siècle, parmi elles, il y a ce qu'on appelle les menudées. Et les menudées seraient faites avec de la farine et du blanc d'œuf qui leur donnerait plus de légèreté, puis étirées, puis séchées. Et puis il y en a encore quantité d'autres sortes, en particulier d'autres qu'on appelle les lozans et les crozets, si je me souviens bien, qui sont un petit peu du genre lasagne. C'est de la pâte découpée en losanges, etc. Et puis, je viens de m'apercevoir en regardant quelques livres que cette description du trésor de santé, on la trouve déjà dans le Platine en français qui date de 1505, c'est-à-dire d'un siècle plus tôt, lequel livre est la traduction d'un livre latin écrit par un humaniste romain qui c'est qu'on appelait Platina. Bon, donc, en 1475, Platina nous décrit déjà plusieurs sortes de pâtes, des macaronis, des lasagnes, et aussi ces menudées donc, que je viens de vous décrire, que je croyais une spécialité provençale du début du 7e siècle, et qui en fait existent déjà en Italie à la fin du 15e.
Je n'avais jamais vu de pâté de macaroni. Aussi n'est-ce pas un morceau pour la bouche de tout le monde. Les macaronis avaient été cuits dans un bouillon de lait d'amande sucré et ambré, la poudre de la cannelle la plus fine, les véritables raisins de Corinthe, des pistaches du Levant, les écorces de citron, les pâtes de gêne le garnissaient. C'était un vrai boccone di cardinal. Je trouvais ces macaronis excellents et si on nous en avait donné de semblables au couvent, je n'aurais pas eu tant de peine à m'y accoutumer.
Stefano Cucuini.
Donc on arrive à la Révolution française. Ça serait un peu amusant, je voulais vous toucher deux petites choses sur la Révolution française qui me tiennent à cœur. C'est une chose assez personnelle, d'une qualification de la cuisine. C'est différent entre la cuisine italienne et la cuisine française. Donc on a quelque part une grand-mère, comme grand-mère vieille personne, qui est donc la cuisine de la Renaissance, laquelle va avoir deux filles. Une fille, c'est la cuisine française, laquelle donc aura tout cet étalage d'elle-même pendant ces 300 années jusqu'à nos jours, où elle utilisera à fond ses connaissances de la Renaissance qui feront d'elle, à oui dire, la première du monde. Et d'un côté, on a la petite sœur, la cuisine italienne. C'est un peu là les cendrillons, quelque peu, parce que c'est pendant ces 300 années où l'Italie, étant occupée donc, par différents pays, à partir de 1600, voire les Français, les Espagnols, les Autrichiens, qui sont arrivés jusqu'à 1900, pratiquement sur notre terre, ont tout confondu. Et donc la pauvre Cendrillon ne pouvait pas sortir dans son carrosse. Finalement, le carrosse est arrivé dans nos années, et ces beaux carrosses, on imagine de faire de la cuisine italienne une consoeur à égalité avec la cuisine française. Voilà, donc on lutte tous les jours, on essaye de faire en sorte que ça passe pour le mieux, ce jumelage après 300 années renouvelé.
L'autre idée?
L'autre idée, je suis arrivé à cette supposition parce que la cuisine française a bénéficié de la Révolution, chose très importante parce que a permis aux cuisiniers qui avaient fait la cuisine pour tous les princes, rois, vice-rois, comtes, vicomtes, ces gens-là étaient, pendant la Révolution, presque massacrés, et donc automatiquement...
Complètement massacrés.
Oui, même complètement, bien sûr. Mais je suis un peu plus modeste comme ça, parce qu'il y en a encore.
Oui.
Donc les cuisiniers du prince de l'époque, pour ne pas se faire couper la tête, il est parti de la maison... Et il a ouvert les restaurants. Donc, dans ces restaurants, il a fait la cuisine qu'il savait faire tous les jours. Et c'est à partir de là que la cuisine française est devenue bourgeoise et a pris cet essor qu'elle a eu dans le monde entier.
Françoise Saban, donc à partir de quel moment apparaît cette distinction qu'on trouve chez les Napolitains entre les mangeurs d'herbes et mangeurs de macaroni, si je traduis directement?
Bon, alors là, il faut vraiment faire obligatoirement référence à un article écrit par le grand historien italien Emilio Sereni, qui est modestement intitulé « Note d'histoire de l'alimentation dans le Mezzogiorno » et qui nous explique effectivement comment les Napolitains, d'un régime essentiellement basé sur les herbes, c'est-à-dire sur les légumes, type brocoli, etc., sont passés à une consommation basée sur les pâtes alimentaires. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vers le XVIIe siècle, à la fois pour des raisons économiques, mais aussi parce qu'il y a eu une importante innovation technologique dans la fabrication des pâtes, il y a eu un tournant. On est passé de la fabrication semi-artisanale et domestique à la fabrication semi-industrielle grâce à deux instruments dont Sérénie souligne l'importance, c'est-à-dire la presse. À quoi sert la presse? Vous mettez une certaine quantité de pâte dans une presse dont le fond est perforé de trous et vous obtenez des spaghettis. Mais bon, quand je parle de presse, je veux dire de presse de grandeur importante. Grâce donc à la presse et à ce qu'il appelle la gramola, si je le prononce correctement, qui est donc un instrument servant à travailler la pâte de manière semi-mécanique, car la pâte que l'on obtient en mélangeant la farine et l'eau pour faire des pâtes alimentaires doit être très très dure, mais elle doit être aussi extrêmement bien mélangée. Donc si vous la travaillez avec une espèce de barre fixée en levier, je dirais, vous la travaillez plus facilement. Donc une des thèses de Sérénie pour argumenter son article sur le fait que les Napolitains sont passés d'une nourriture à base d'herbe à une nourriture à base de pâtes, est fondée sur l'apparition de ces deux instruments qui ont permis de fabriquer les pâtes sur une plus grande échelle.
Gianpiero Franceschini.
Il y a eu une découverte, ça a été la machine continue, comme on appelle. C'est évident que déjà encore en 1770, en 1780, à Naples, encore on macérait la farine avec les pieds. Les hommes ils poussaient, comme on fait dans certains vendanges, avec les raisins dans les tonneaux. Ils faisaient les mélanges entre eau, qui représente environ 25-30% par rapport à la semoule. Ils macéraient avec les pieds. Évidemment, ce procédé déjà avait choqué à l'époque le roi Ferdinand, qui avait demandé d'ailleurs à un de ses courtisans de s'occuper de la question, et on avait trouvé un remède assez sympathique à l'époque. On avait fait un grand homme de bronze, et qui, par un mouvement de balancier, évitait aux personnes de mêler ses pieds dans la pâte qui devait être consommée après.
La fabrication industrielle apparaît à partir de quel moment à peu près?
La fabrication vraiment industrielle, je crois que l'ingénieur Agnesi a été un des premiers. En fait, la découverte, ça a été la machine continue qui rassemble une espèce d'hache-viande avec une vis sans fin. Évidemment, dans l'industrie, la machine continue en petit modèle est devenue maintenant ce qu'on appelle des linéaires qui font environ 12-15 mètres de longueur et qui prennent toutes de grandes pièces qui travaillent en continuation.
C'était à quelle époque ce début de la machine continue? C'est au début du siècle?
La machine continue, elle date à peu près du fin du 19e, hein, début du 1900, si vous voulez.
Moi, je me rappelle ces fameuses photos du siècle dernier, dans Naples et région, dans lesquelles, dans toutes les cours des immeubles, il y avait des énormes rideaux, des pâtes à sécher au soleil dans les cours.
Oui, parce que même la pâte fraîche,
des énormes rideaux, comme des nappes qui faisaient plusieurs mètres carrés.
Et souvent, on vendait ça à des balais.
Des
manches de balais, d'une chaise à l'autre. La rigatoni, i coccioloni, no.
No, questi si chiamano
lumaconi.
Sì, ma noi abbiamo una variante su questo tema, la embusera di chioccioloni di grano duro alla farcia d'anatra. Piatto originario della regione Tour d'Arezzo a Toscana.
Alla farcia del canale.
Piatto del Rinascimento questo.
Che questa è la partie d'Arezzo, c'è la partie moins corrompue.
Oui, 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 c'est ça.
La salsa.
Infatti dietro la retina, lui sì, era originario d'Arezzo.
E la retina era un po' libertina.
La pâte avec les œufs, c'est vraiment d'origine ménagère, je dirais familiale. C'est vraiment l'expression de la mère de famille qui veut donner au produit une saveur, une consistance plus jour de fête, si je peux dire. C'est la fête. Alors on mobilise le produit que les autres jours un peu plus pauvres. Et d'ailleurs, après, il y a eu une suite encore, hein, la pâte aux œufs. Alors là, on est arrivé à l'extrême, hein, bien qu'il n'y a jamais d'extrême dans l'art culinaire. Mais enfin, on est arrivé à mettre alors presque tous les ingrédients du jour de fête dans les mêmes produits. C'est ce qu'on appelle les tortellini, les ravioli. À l'intérieur, nous avons de la viande de bœuf, de la viande de porc hachée finement, des herbes, du fromage, un peu de noix muscade, quelquefois, et pratiquement tous les repas sont dans un seul produit. Et c'est les repas nobles, c'est tous les produits qu'on ne consommait pas. Hein, je ne parle pas de la société d'aujourd'hui, je parle déjà de l'avant-guerre, déjà c'était un peu dans les campagnes italiennes, dans les, il y avait cette manière de manifester la fête à travers de recherches, toujours en utilisant les mêmes produits, mais en les rendant plus riches, si vous voulez. D'ailleurs, il y a une maison italienne qui avait lancé un slogan, il a eu une grande fortune. La fabrication des pâtes industrielles, lorsqu'elles sont devenues industrielles, il y a eu un peu de méfiance au départ. Et il y a une maison italienne, très célèbre aujourd'hui, qui avait lancé un slogan avec pâtes, c'est toujours dimanche.
Et alors, justement, puisqu'on est à aujourd'hui, quelle est l'importance de la consommation des pâtes, si on les appelle encore comme ça, en Chine en particulier ?
Bon, déjà, il faut voir qu'il y a deux Chines qui s'opposent. La Chine du Nord, donc dite Chine du blé, opposée à Chine du Sud, dite Chine du riz. Donc, il est vrai que pour les Chinois, la meilleure façon de préparer le blé, c'est de le moudre et c'est d'en faire des pâtes. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Et le blé...
Pas du pain.
Non, du pain un petit peu, mais et encore, là aussi, il faut s'entendre sur les définitions, parce que pour nous, le pain, qu'est-ce que c'est ? C'est une pâte fermentée, cuite au four avec une croûte. Or, le pain en Chine, c'est une pâte levée, mais qui n'est jamais cuite au four, n'est-ce pas ? Puisqu'il n'y a pas de... On n'utilise pas le four dans la cuisine domestique en Chine, mais qui est cuite à la vapeur. Alors, ça donne une boule de mie, ce que nous pensons être uniquement de la mie, légèrement suintante de sa cuisson à la vapeur, qui ne correspond pas tout à fait au goût des Occidentaux. Bon, ceci dit, c'est vrai qu'en Chine du Nord, on consomme aussi des petits pains à la vapeur. Alors, est-ce qu'on préfère les petits pains à la vapeur aux pâtes ? Ça, je n'en sais rien, mais je pense que les pâtes sont mieux considérées que les petits pains à la vapeur. Ça, c'est une opinion personnelle.
Elles sont fabriquées de manière domestique, d'ailleurs, souvent, ces pâtes. C'est très souvent aussi des raviolis.
Oui, c'est vrai que les pâtes dites non farcies sont souvent aussi fabriquées de manière domestique. Et en plus, naturellement, on fait énormément de raviolis. Tout à fait, à la manière italienne, sauf que bien souvent en Italie, maintenant, on met des œufs dans la pâte. En Chine, pour les raviolis les plus courants, on ne met pas d'œufs dans les pâtes, c'est simplement de la farine et de l'eau. Alors là, il y a tout un jeu sur la chaleur de l'eau, qui peut être tiède, qui peut être froide, qui peut être bouillante, selon le type de produit qu'on veut obtenir, selon l'apparence qu'on veut obtenir. Une eau bouillante cuit un peu la farine, donc rend la pâte un petit peu plus grise, mais le produit obtenu sera beaucoup plus facile à cuire à la vapeur, etc. Donc on module la façon de faire ces pâtes en fonction justement de la cuisson qui va être soit à la vapeur, soit à l'eau bouillante, soit, je dirais presque, étuvée. Certains raviolis, on les met dans une casserole avec très très peu d'huile et on met un tout petit peu d'eau et de vinaigre dans le fond et on ferme et on laisse cuire comme ça. Donc là, il faut que la pâte soit quasiment pré-cuite pour donner un résultat agréable.
Et les raviolis en question, ce sont plutôt des plats de fête ou des plats complets qu'on mange de manière tout à fait classique ?
Oh ben ça peut être effectivement des plats complets qu'on mange de manière assez ordinaire, mais c'est vrai que ça peut être aussi un plat de grande fête. Par exemple, en Chine du Nord, la veille du Nouvel An, toute la famille se réunit pour confectionner des raviolis et tout le monde s'y met et tout le monde mange des raviolis. Là, c'est tout à fait symbolique. C'est symbole de la réunion de la maisonnée.
Mais qui sont fourrés à quoi, ceux-là ?
Alors, bon, les farces des raviolis en Chine peuvent être infinies. La farce la plus courante, c'est du porc haché avec un petit peu de ciboule, de gingembre et de sel, bien pétris. Sinon, vous avez toutes les farces végétariennes possibles et imaginables, les farces à base de poisson, à base de fruits de mer, absolument tout ce que vous voulez.
Et les... Mais ça, c'est... on les trouve plutôt dans le nord, donc, ou c'est dans l'ensemble de la Chine?
Bah, c'est-à-dire que vous avez différentes écoles de cuisine en ce qui concerne les raviolis. C'est sûr que les pâtes qui forment les enveloppes des raviolis dans le nord sont, par exemple, aux yeux des gens du sud, extrêmement grossières, parce qu'elles sont assez épaisses et on utilise une farine... quelquefois un peu complète, un peu bise, alors que souvent dans la région de Canton, on va utiliser des farines qui sont déglutinisées, si je puis dire, dont on a enlevé le gluten, donc des farines qui sont très légères, légèrement transparentes et qui sont considérées comme beaucoup plus raffinées que celles qu'on mange au nord.
Est-ce que vous savez pourquoi finalement l'Italie a une sorte de suprématie dans la consommation des pâtes ?
Bon alors là, oui, effectivement, vous avez raison de parler de suprématie, parce que si on se promène en Italie, si on s'intéresse un tout petit peu au mode de vie italien et au système alimentaire italien, on ne peut pas manquer d'être frappé par cet amour des gens pour les pâtes. C'est vrai que l'innovation gastronomique porte essentiellement sur les pâtes. C'est vrai que les fantasmes alimentaires des gens portent sur les pâtes et que pour nous, Français, cela paraît toujours étonnant.
Maître d'hôtel arrive, madame, on lui fait toute la liste, il dit 3, 4, 5, sinon la femme est toujours ailleurs, distraite, dédaigneuse, et un certain moment elle dit rigato. C'est la seule pub que Fellini a fait. Rigato.
La pasta, pasta di semola di grano duro, super pasta. Bucatini, ricci, lasagnette, lasagne, lasagnette, signorine, regine, reginette. Fior di sambuco, occhi di pulce, pisello forato, tempestina, occhi pernice.
Oulala, là là. C'est des centaines, certainement. Des centaines, surtout les... Je crois que ce sont les petites pâtes, celles qu'on utilise dans les potages, pour lesquelles il y a, disons, la fantaisie et l'imagination des fabricants et des chaînés. Alors, celles qui se font à la maison sont dans un nombre limité, mais sinon, les petites pâtes, les puntines, la grandinina, l'alfabeto, et ainsi de suite, là, à s'y perdre.
Farfalla, farfallette, farfalline, gnocchi, radiatori, cirilli, cornetti, capelli d'angelo nido semola, spaghettini, fidellini, spaghettone, lingue di passero, trenette.
On part du principe qu'aujourd'hui, les différentes pâtes fabriquées en Italie dues au génie du vermicellier sont présentes dans le monde entier, valorisent toujours en quelque sorte la région où elles sont produites, et on peut imaginer de manger deux types de pâtes différentes dans la forme chaque jour pendant 365 jours de l'année, c'est-à-dire qu'on peut imaginer, sans exagérer, aux alentours de 730 types de pâtes.
Pasta all'uovo, pastificio, mal tagliati, tortiglioni, mostaccioletti, pipe rigate e pipe lisce, denti, bricchettone rigato, di talone liscio, bricchettone liscio, brichetti, conchigliette, pennette, nodini, curvati, anelli rigati, anellini rigati mezzani, Ave Marie, Pater Noster, puntina, stelline, seme di melone, goccia d'oro, alfabeto, c'est tout des formats, oui? Sono tanti diversi formati di pasta.
Je crois que le problème c'était de donner un visage différent à un aliment qui était toujours le même. C'est-à-dire que si on change la variété du format, on a toujours l'impression de manger quelque chose de nouveau, de différent. Et là, dernièrement, il y a des maisons très importantes en Italie qui se sont confiées, si vous voulez, à des vrais designers.
Designers, oui.
On fabrique des pâtes comme on peut fabriquer une lampe halogène, comme on fabrique avec le même goût. On va chercher des formats très insolites, très, 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 très captivants. Il y a une maison qui a fait un format tout à fait... Deux formats, en plus, qui nous ont assez. D'ailleurs, qu'on distribue actuellement ici, c'est les radiateurs.
Alors, la des pâte, pâtes en forme de radiateur.
En forme de radiateur. Bon, qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Ils ont que ces radiateurs, avec ces lamelles, si vous voulez, style radiateur, lorsqu'on met une sauce avec, il arrive bien à rentrer, il compénètre tellement bien que c'est beaucoup plus pratique et en plus c'est amusant. Il y en a une autre qui s'appelle Creste di Gallo, c'est la
crête de coq.
La crête du coq, oui, ça c'est amusant aussi, c'est pas mal. Ça fait penser un peu au casque des Romains. C'est très amusant aussi.
Et justement, ces pâtes donc, qui sont creuses ou sur lesquelles on voit des nervures, enfin, ça obéit à un motif précis ou c'est simplement d'ordre esthétique?
Non. Les rayures en particulier, c'est toujours cette recherche, si vous voulez, de prendre en même temps la sauce qui ne reste pas dans l'assiette, si vous voulez. La partie rayée sert à cocher une sauce sur toutes les sauces qui sont liquides, comme des napolitaines, sauce tomate, basilic, par exemple, bon, sont assez fluides, si vous voulez. Évidemment, dans les pâtes qu'on appelle lisses, il y a une tendance à en avoir un tout petit peu. Les Romains, ils sont fous, par exemple, de pâtes raillées, rigatoni, tout ce qui est raillé, tout ce qu'ils peuvent avoir tout ensemble.
Moi, quand on fait des pâtes, j'ai des souvenirs de sauce, tu vois. Voilà, j'ai des souvenirs de... C'est la
belle. Quanti pizzi.
Mangia. Qu'est-ce que disent les nonnes, en général? Mangia.
J'ai des souvenirs de sauce. Ma pauvre grand-mère préparait des sauces qui duraient 48 heures. Elle restait 48 heures sur le feu, à petit feu, tu vois, il fallait qu'elle se condense. Et puis quand ma grand-mère, finalement, elle a mis ça à table, mon grand-père mangeait et puis il disait, elle est liquide.
Les Américains n'ont
pas. Alors pour moi, les pâtes, c'est plutôt ces sauces.
La sauce tomate, finalement. Et les Tunisiens ont gardé cette coutume de préparer les pâtes à la sauce tomate. Mais seulement à la sauce tomate, il n'y a pas d'autre manière de les préparer. Et ça fait partie de leur repas journalier, en fait. Hein.
Mais c'est une tomate concentrée, je pense, réduite.
Non, des tomates fraîches. À base de tomates fraîches, d'huile d'olive.
Oui, on ajoute des autres légumes aussi avec les tomates.
D'autres légumes, non, absolument pas. Mais c'est un plat qu'ils ont gardé de la colonie italienne, plus que le riz en fait. Ils mangent plus les pâtes que le riz.
Oui, le riz c'est...
Oui, ce sont des spaghettis, des vrais spaghettis.
Ces spaghettis, toute une histoire. On leur attribue même une origine mythique. Les spaghettis seraient un don de la muse Thali au poète famélique. Comme de juste, on les retrouve mentionnés pour la première fois dans un poème napolitain en 1824. Dans la lignée, sans doute, de la poésie macaronique, ce mélange de latin et d'italien qu'avait inventé le poète Il Folengo au XVIe siècle. Au-delà de ces références littéraires, les pâtes apparaissent comme un élément essentiel de la diète méditerranéenne, si prisée de nos jours. Gian Piero Franceschini.
Bien, la pâte alimentaire contient presque tout. Elle contient la partie protéique, elle contient les enzymes dans les germes, elle contient les vitamines qui sont nécessaires à l'organisme, la A, la B, la B1, qui est la vitamine qui fixe le sucre dans le sang. Hein, s'appelle aussi thiamine.
Elle contient tous ces éléments si elle est bien fabriquée pour autant, parce que je pense que toutes les pâtes ne sont pas faites de la même manière.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que le point de départ, il s'agit toujours pour les produits dont on parle, c'est-à-dire les pâtes alimentaires d'une qualité supérieure, comme elle dit le mot, de partir avec du blé dur. Et l'important, je pense, que pour une bonne maison, pour un bon fabricant de pâtes alimentaires, c'est de créer un mélange savant. Il y a toujours la maestria, l'intelligence, il y a l'amour du choix, par essai, par recherche, par étude.
C'est-à-dire qu'on fait un mélange de différentes sortes de
blé
dur.
Aucun blé dur, il pourrait, même de grande, très grande qualité, pourrait résister toute seule. Il faut toujours qu'il soit dosé avec un petit peu de blé tendre ou avec des autres qualités de blé dur.
Rodolfo Gabellieri.
Le blé dur est une variété de céréales qui se différencie du blé qu'on appelle tendre, les blés tendres, les blés avec lesquels on fait les pains, parce que le blé dur contient un pourcentage assez élevé de gluten, qui est un composé assez complexe, d'abord polymérique, c'est-à-dire qu'il y a une structure de longues molécules, ce qui est le cas aussi pour l'amidon. Mais alors que l'amidon a tendance à se défaire, s'hydrater, s'imbiber facilement, le gluten a cette caractéristique qu'il forme une sorte de toile d'araignée tridimensionnelle au sein de laquelle sont retenus les grains d'amidon, qui de ce fait ne savent pas s'échapper pendant la cuisson des pâtes, par exemple. Alors que si vous préparez des pâtes avec du blé tendre, ben, pratiquement vous avez des grains d'amidon qui sont aussi liés par du gluten, mais en quantité beaucoup moindre. Et de ce fait, elles ont tendance, comme on dit, normalement à se défaire, c'est-à-dire à former une colle, ou ce qu'on dit, un empois d'amidon, quoi. Hein. Bon. Pour faire des pâtes, évidemment, le blé dur a toujours eu la préférence en Italie, tout au moins, c'est même obligatoire en Italie, l'utilisation du blé dur. Alors que, par exemple, aux États-Unis, c'est normalement écrit et on prévient les clients que les pâtes sont souvent faites avec du blé à pain, du blé tendre. D'ailleurs, il y a pas mal de choses qui dérive de ces faits. Par exemple, l'habitude, on dit toujours que quand il faut cuire des pâtes, il faut mettre un peu de graisse de beurre ou d'huile à la surface de l'eau pour empêcher les pâtes de coller. Mais c'est une habitude typiquement américaine et qui repose sur l'utilisation du blé à pain. D'un blé qui est fait d'amidon et qui a tendance à se défaire, alors il faut évidemment éviter que les pâtes s'en collent. Quand on utilise des bonnes pâtes avec du blé dur, il n'y a absolument pas besoin de mettre du beurre ou de l'huile à la surface de l'eau en ébullition dans laquelle, quand on cuit les pâtes, elles ne colleront pas, il suffit de les remuer de temps en temps, et point, c'est tout.
Dans les cuisines du restaurant Velloni, Stefano Cucuini.
Si vous voulez, je vous donne deux petits éléments pour la cuisson. Donc la pâte, quand on cuit une pâte, et je parle donc de la pâte séchée, pas de la pâte fraîche, la pâte séchée doit toujours être cuite les 100 grammes, toujours dans un litre d'eau. Hein, je parle d'une petite proportion, donc 200 grammes, 2 litres d'eau, 1 kilo, 10 litres d'eau. Donc la pâte doit être donc déposée dans cette marmite, pas tout entière, mais doit être posée en éventail de façon à qu'elle absorbe l'humidité et elle descende tout doucement. À partir du moment où on a mis donc cette pâte, il faut augmenter le feu de façon à ne pas faire perdre les moments de l'ébullition de l'eau. Et à partir de là, on compte les 4 voire 10 minutes selon les formes et les styles de pâte qu'on cuit. la pâte donc est égouttée. Il faut faire attention donc à pas l'égoutter trop. Il faut laisser toujours un petit peu de jus de cuisson qui va donc dans l'assiette parce que la pâte a toujours tendance à assimiler toujours de l'eau. D'ailleurs, une pâte qui doit être cuite 5 minutes, qu'on laisse 10 minutes, elle absorbe 3 fois son poids. Donc, rester dans la cuisson al dente est très important pour la pâte.
Encore une fois, c'est une question d'habitude, mais de toute façon, c'est prouvé. C'est jamais par hasard. Parce qu'il y a des traditions qui existent, c'est quand même jamais par hasard. Donc, si on ne mange pas la viande de porc en Sicile au mois d'août, c'est parce que ce n'est pas tellement conseillé. Et la même chose, d'ailleurs, on n'en trouvera jamais dans les boucheries. Et les pâtes, c'est la même chose. Si on les mange al dente, c'est parce qu'on l'a prouvé maintenant, c'est que c'est beaucoup plus digeste. C'est beaucoup plus digeste parce que les pâtes qui sont trop cuites, une fois qu'elles tombent dans l'estomac, après, elles se mélangent aux autres sucres et ça gonfle. Et ça vous fait gonfler le ventre. Donc, c'est pas les pâtes qui font grossir, ça donne du volume éventuellement. Par contre, si on les mange al dente, elles sont beaucoup plus digestes et un plat de pâtes, limite après, il est vite oublié. On n'en gardera que le merveilleux souvenir dans l'esprit, dans la tête.
C'est énergétique.
Mais pas dans le ventre.
À ce moment-là, il devient énergétique.
Je pense qu'il est certainement plus énergétique parce que s'il cuit trop, certainement il doit y avoir des éléments bons qui doivent se perdre.
La cuisson. Les hauts degrés de cuisson et qui ne sont pas sur les
bons. Donc une cuisson juste, pas courte mais juste.
Mi fai la faccia, dimmi il calore. Cipria te la vai, mi vellutina.
Est-ce que vous avez essayé de retranscrire ce côté très régional justement de la cuisine italienne et sur les pâtes en particulier? Je veux dire par là, est-ce qu'il y a des pâtes qu'on fait dans le nord de l'Italie et qu'on ne fait pas dans le sud et inversement?
Oui, évidemment. Hein. Je dois dire que même gastronomiquement parlant, en Italie, les pâtes, c'est quelque chose qui tient au centre-sud. Alors que le nord est dominé plutôt, je dirais, par les riz et les maïs. Tellement que, vous savez, on appelle macaroni les Italiens du midi, mais ils s'empressent tout de suite d'appeler polenta les Italiens du nord, ou plutôt les Italiens de la Venise, pour signifier que dans la Venise, la farine de maïs utilisée pour faire ce qu'on appelle la polenta n'est pas la même chose que la polenta corse, parce que la polenta corse est faite avec de la farine des châtaignes. De toute façon, dans les types de pâtes qu'on fait, on peut déjà commencer à parler des gnocchis, parce que ici aussi, vous savez ce que sont les gnocchis. Eh bien, les gnocchis, ça tient d'abord de la domination autrichienne en Lombardie pendant très longtemps, qui a amené ce que les Allemands appellent Knödel. Knödel, ça vient du verbe kneten, qui veut dire mettre en pâte. Et finalement, là, vous avez déjà une forme tout à fait particulière qui est d'une origine, d'une influence très, très germanique, je dirais. Ça a très peu d'italien, ces types de pâtes qu'on appelle gnocchi. Hein.
Et qui sont faits comment exactement?
Ah ben là, vous avez toute une série de variantes, évidemment. Alors, disons, les plus classiques, ça peut vous faire rigoler, c'est qu'à Rome, on appelle les strozzapreti. Strozzare, ça veut dire étrangler. Ben, preti, c'est les prêtres. C'est fait pour étrangler les prêtres.
C'est presque notre étouffe chrétien.
Un peu ça, mais en réalité, je crois que l'origine est différente. Ces types de gnocchi sont faits avec un mélange de farine de pommes de terre et de farine de blé. Et ça tient au rapport entre les dés. Si vous les avez très légers, quand il y a beaucoup de farine de pommes de terre, c'est très léger, très digeste. Sinon, ça devient du caoutchouc quand il y a beaucoup de farine de blé dedans. Et évidemment, les dangers, si vous mettez beaucoup de farine de pommes de terre, ou de pommes de terre mâchées, ils ont tendance à se défaire pendant la cuisson. Alors, la ménagère, elle préfère plutôt l'autre formule, de mettre beaucoup des farines de blé. Comme ça, elle est sûre que ça ne va pas se défaire pendant l'ébullition. Mais le résultat est qu'après, ça devient difficile à avaler. D'où les noms qu'on lui donne à Rome. Mais pour rester dans les gnocchis, dans les pouilles, par exemple, vous trouvez des gnocchis qui sont faits uniquement avec de la farine de blé dur. C'est d'ailleurs les plats les plus typiques de cette région, ce qu'on appelle les cavatietti. Cavato, ça veut dire creusé. Ils sont rendus crés et ils sont assaisonnés d'une façon très très simple. C'est une des meilleures préparations de la région de Bari.
Moi, je vais parler de la pagliata, moi. La pagliata, c'est romain.
Ah oui, oui, c'est romain.
Typique, mais romain, il n'y a qu'à Rome.
Ça appartient à la décadence de l'Empire romain. La chute, même.
Non, parce
c'est la cause de la chute.
Voilà.
C'est toujours dans la cuisine, quand même.
Dans la pagliata, n'est-ce pas? La sauce, oui, est faite à partir des boyaux des jeunes veaux. Avec le lait dedans. Des jeunes veaux, ils ont du lait dedans. Donc alors, bah oui, c'est très légitime. Il faut aller chercher les goûts dans des endroits vraiment insoupçonnés. Bon, alors évidemment, ça, c'est une sauce toujours rouge, accompagnée par la tomate. Et on peut l'accompagner avec rigatoni, avec fettuccine. Oui, c'est rigatoni et fettuccine. Des pains avec pas de la sauce. Rigatoni parce que la sauce rentre dedans, et fettuccine parce que ça sent, c'est assez large et ça s'enveloppe bien. Et ça fait un peu impression parce que justement, on voit que là-dedans, il y a des mélanges de choses un peu bizarres. Mais c'est délicieux. C'est délicieux et parce que vraiment, ça a un goût de lait à peine, un peu
âpre. Ce qu'il ne dit pas, c'est que c'est un plat qui est remontant et qui est très aphrodisiaque.
L'origine,
parce que la pagliata, parce que quand on a mangé ça, on casse tout après.
Mais elle est connue à Florence aussi.
Non, c'est romain, ça c'est typiquement.
Mais ça, c'est bien parce que justement, ça me rassure parce que moi, je n'ai jamais entendu parler. Pourtant,
non, mais c'est pas tous les restaurants romains, là, il y a que certains bons restaurants.
Et dans le centre dont vous parliez tout à l'heure, par exemple, en Ombrie, qu'est-ce que c'est l'une des grandes spécialités?
Mais en Ombrie, il y a beaucoup de choses intéressantes. Disons beaucoup plus essentielle, c'est beaucoup moins sophistiqué, ça tient encore une fois plus ou moins à la richesse d'origine. Mais par exemple, dans la haute vallée du Tibre, vous trouvez des pâtes faites à la main, ce qu'on appelle des pinci, ça ressemble à des gros spaghettis, si vous voulez, mais coupés grossièrement. Et d'ailleurs, il existe ce qu'on appelle les spaghettis à la chitarra. On les appelle à la guitare parce qu'en réalité, elles ne sont pas des véritables spaghettis, c'est de la feuille qui est coupée sur des fils en acier tendu et on en retire donc des lanières qui ont une section vaguement carrée. Hein. Bon, ça, c'est des spaghettis à la guitare et c'est typique de la région de la péninsule centrale, disons à mi-hauteur de la péninsule. Voilà, ça, c'est... Alors, les formes particulières, vous en trouvez partout, dans la forme des pâtes farcies, par exemple. Vous pouvez détecter à 50 km près l'origine d'une pâte rien qu'en voyant la forme. Parce que ce qu'on appelle les tortellini à Bologne, ça devient anolini d'abord. À Mantoue, par exemple, mais la distance est très modeste. Mantoue est de l'autre côté du Po, mais c'est déjà donc... pratiquement... L'idée de départ est la même, mais vous voyez la forme, là, on peut discuter des journées et des journées. Je vous cite encore une préparation de la ville de Plaisance, Piacenza en italien. Sont des petits gnocchis, mais tout petits, qui d'ailleurs sont cuits, mélangés avec des haricots. Ils doivent avoir la même taille que les haricots. Et on dit qu'avant qu'une fille puisse se marier à Plaisance, on va regarder son doigt, son pouce, parce que s'il n'a pas un petit cœur à force de faire ces petits gnocchis, eh bien, c'est pas considéré, disons, un parti à recommander.
En 1816, après le triomphe de son barbier de Séville, Rossini fut invité à Naples par Francesco Barbaia, le célèbre impresario du théâtre San Carlo, qui lui offrit son palais et la plus parfaite hospitalité. En échange, il était seulement demandé à Rossini de composer un nouvel opéra, Otello, en 6 mois. Des mois durant, Rossini se contenta de faire bombance avec ses amis. Jusqu'au jour où, irrité par les réponses évasives du maestro sur la livraison de l'opéra, l'impresario le fit murer dans une chambre du palais Barbaia et Rossini dut écrire son Otello avec 2 plats de macaroni par jour. En 24 heures, l'ouverture était déjà composée. Ce n'est là que l'un des multiples épisodes de l'histoire de Rossini avec les pâtes. Non seulement grand amateur de toutes sortes de macaroni, mais aussi fin cuisinier, sa vie parisienne, définitive à partir de 1841, se distingua aussi par quelques riches épisodes gastronomiques.
À l'occasion, les macaroni font même figure de symbole politique. Particulièrement choisi, par exemple, au moment de l'unité italienne.
San Stefano.
No, non è San. Ma te la ricordi della storia? L'imperatrice Eugenia.
Les fameux repas, il s'est passé, donc on n'arrive pas bien donc, à situer actuellement la date, mais donc Cavour était à l'ambassade sarde, de sardo-piémontaise à Paris, et l'impératrice Eugénie l'invite à un dîner. Et donc, de là, un dîner tout à fait politique. D'ailleurs, tout ce qu'on va suivre va faire voir, donc, les mets qui ont été servis avaient tout à fait une consonance et une signification politique, parce qu'il lui a proposé. L'impératrice Eugénie, donc elle arrive et dit voilà lo stracchino, qui c'est un fromage à pâte molle de la région de Lombardie, voilà le parmigiano di Reggio Emilia et le jambon de Parme. Ensuite, après votre dîner, on va vous donner les oranges de Sicile. Et alors, Cavour, après les oranges, il attendait naturellement i maccheroni de Naples qui ne sont jamais arrivés. Alors il restait un peu sur sa faim. En revenant au Piémont, le débarquement des mille avec Garibaldi s'est fait. Il arrive jusqu'à Teano en prenant Naples. Donc soudain, Cavour renvoie un télégramme au consul de Sardaigne et du Piémont à Paris qui le fait savoir à l'impératrice en lui disant que i maccheroni di Napoli étaient servis et qu'il si voulait se dépêcher parce qu'il fallait les manger chauds. Voilà, encore une fois, on retrouve ces macaroni dans l'histoire politique italienne del Risorgimento.
Vivant symbole gastronomique de l'Italie, les pâtes ne furent pas épargnées par la fureur révolutionnaire du mouvement futuriste.
Marinetti. Manifeste de la cuisine futuriste, 1930. Nous, futuristes, après avoir allégé la littérature mondiale par les mots en liberté, délivré le théâtre de l'ennui, immensifié les arts plastiques par l'antiréalisme, créé la splendeur architectonique, la cinématographie et la photographie abstraite, imposons à présent une alimentation adaptée à une vie toujours plus aérienne et rapide. Nous estimons avant tout nécessaire l'abolition des pâtes, absurde religion gastronomique italienne. Aux Anglais conviennent peut-être le stockfish, le roast beef et la crème renversée, aux Hollandais la viande cuite dans le fromage, aux Allemands la choucroute, le lard fumé et la saucisse, mais aux Italiens, les pâtes ne conviennent pas. Par exemple, elles contrastent avec la vivacité d'esprit et l'âme passionnée, généreuse, intuitive des Napolitains. S'ils furent des combattants héroïques, des artistes inspirés, des orateurs capables de remuer les foules, des avocats brillants, des agriculteurs obstinés, c'est en dépit des volumineux plats de pâtes quotidiens. Et c'est à force d'en manger qu'ils deviennent sceptiques, ironiques et sentimentaux, caractéristiques qui souvent freinent leur enthousiasme.
Illustre giovane chef italiano. Illustre Stefano è l'illustre giovane chef della cucina italiana.
Il nostro ambasciatore. Eccoci.
Faites bruit et gagnez des esprits. Éveille les sentiments. Donc, voilà, come vous avez dit, dulcis in fondo. Il bianco e nero di Marinetti, se la formule futuriste, oh, ce le savez. C'est futuriste le plaie, il n'y a pas de problème, madame. Même les tâches sont autorisées. Et donc, c'est un'idée que Velloni a proposée lors d'un repas, les jours de la Saint-Narcisse, le 26 septembre 1986, ici dans les restaurants Velloni. 1926, giovani, siamo giovani.
Futuristes,
et donc ces repas comportaient une série de plats futuristes et à la fin, en contraposition à la pâte qui avait été bannie par Marinetti, on l'a, en tant que néo-futuriste, réinséré donc à faire partie d'un plat et présenté sous forme donc de ces ravioli au chocolat qui nage dans la mer anglaise. Voilà les bianco et nero.
Meglio, il bianco e nero.
Eccoci.
Quand l'invention esthétique rejoint l'art culinaire, quelle meilleure preuve de civilisation ? Telle l'histoire de ce banquet, imaginé par le peintre De Pedego, en hommage à la pensée du philosophe napolitain Vico. Il en résulta un tableau présentant la raison concrète triomphant de la raison abstraite. Tableau mis en gastronomie par Stefano Cucquini. Et le philosophe Vico fut consommé sous forme de pâte. La raison concrète est la force du gluten.
Et sinon, alors, est-ce qu'on peut dire, Gian Pietro Franceschini, que la pâte, c'est un aliment d'avenir ?
Vous savez, le marché du blé mondial, c'est un marché un peu truqué, si vous voulez. Si on pouvait cultiver tout ce qui est cultivable en blé aujourd'hui, à partir du Canada, États-Unis, même nous, en Europe, les blés qui ont pourrait récolter, ça servirait largement, largement, ça a été prouvé, à nourrir l'humanité entière. Il se conserve, il ne se détériore pas. Dans certaines conditions de stockage, il se garde bien. Maintenant, la technique, elle permet d'avoir des silos tout à fait performants. Une fois fabriqués les produits, il y a une validité actuellement d'environ 3 ans, une bonne pâte alimentaire. C'est des faciles emplois, c'est pas cher à l'achat, s'assimile bien et contient tout. Elle a les protéines, elle a les vitamines, il y a les enzymes, il y a la nutrition, elle est très importante. De toute façon, moi je vois déjà même l'homme qui s'en va dans l'espace, parce que finalement, pas tout de suite, mais enfin la société, elle devra trouver une autre ouverture. Je crois. Mais dans la navette spatiale, en partant pour l'espace, il faudra amener des grains de blé. Même là où il n'y a pas d'atmosphère, je pense que l'homme trouvera la manière de cultiver même dans l'espace ce produit. Parce que c'est un produit vivant, c'est un produit vital. Et lorsqu'on le consomme, il maintient ses caractéristiques vivantes. Les germes sont vivants. On ne le tue pas.
La civilisation des pâtes ou la force du gluten par Pascal Lismonde. Avec Stefano Cucquini, Jean-Louis Flandrin, Gian Pietro Franceschini, Rodolfo Gabellieri et Françoise Saban. Et la participation de Solange, Antonio, Maria Pia, Diego, Fabienne. Groupe de réalisation, Claude Jubier, Nathalie Fado, Claude Giovanetti.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 24 mai 1988.